RFI.
RFI. La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, bienvenue dans cette danse des mots pour la 4e fois à Avignon et nous y serons encore demain pour vous parler chaque jour de deux spectacles qu'on peut voir et entendre au Festival d'Avignon. Un spectacle qui vient de ce qu'on appelle le IN, la programmation disons officielle, et un spectacle qui vient du OFF, une programmation dont on a peine à penser qu'elle est vraiment officieuse et qui en tout cas est extrêmement importante puisque je crois qu'il y a plus de 1500 spectacles qui s'offrent aux yeux et aux oreilles de ceux qui ont la bonne idée d'être à Avignon pendant l'été. Donc nous allons parler dans quelques instants de Mama, un spectacle qui a été écrit et mis en scène par Ahmed El Attar, et tout de suite nous allons parler de On prend le ciel et on le coud à la terre avec le comédien qui incarne le locuteur qu'on entend et qui est en même temps le metteur en scène de cette pièce qu'on peut voir au théâtre des Halles tous les soirs à 22h30 à Avignon. Bonjour Yann Allégret.
Bonjour.
Merci bien de déserter pour quelques moments le théâtre des Halles et de venir nous parler de ce ciel qu'on coud à la terre, qui est donc un texte de Christian Bobin. Oui. Est-ce que ce texte au départ est fait pour être dit? Est-ce qu'il a un rapport avec le théâtre ou bien est-ce que tout
non.
ça c'est vous qui l'avez injecté
oui,
là-dedans?
Absolument, absolument. Non, l'écriture de Christian Bobin n'est pas destinée au théâtre a priori. Du tout, mais il arrive des rencontres un peu comme des rencontres amoureuses, des rencontres qui marquent, et ça a été mon cas avec l'écriture de Christian Bobin, pas tellement sur une œuvre en particulier, mais vraiment sur tout le travail d'écriture qui s'étend sur des dizaines et des dizaines d'années entières, et qui, moi, a été de l'ordre d'une brûlure très salutaire, déjà d'une part, et ensuite, comme moi je viens vraiment du plateau, j'écris aussi. Je suis auteur, je suis acteur, metteur en scène. Et finalement, cette brûlure-là, elle a créé déjà un soulagement. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de dire des choses dont on a besoin aujourd'hui et qui sont très, 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 très solides.
Et c'est ça le rapport entre la brûlure et le soulagement, vous avez l'impression?
Mais bien sûr.
C'est de dire des choses dont on a besoin, qui sont particulièrement actuelles et qui viennent à point nommé pour essayer de donner du sens à quelque chose qu'on perçoit sans vraiment le comprendre.
Bien sûr, c'est-à-dire que Bobin, il parle de la vie qui est en dessous de la vie. C'est-à-dire quand on enlève tout, quand on enlève le social, quand on enlève le fric, quand on enlève toutes ces catégorisations qu'on subit dans la vie de tous les jours, on reste face à des archétypes qui sont la vie, la mort, l'enfance, l'amour, toutes ces choses-là. Bobin, il ne parle que de ça. Que de ça. Ce qui veut dire que d'emblée, on est face à quelque chose qu'on connaît. Et le soulagement, pour moi, il est dans le fait d'accueillir tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une écriture ni qui prend la vie pour un champ de roses, ni qui prend la vie comme un champ de ruines. On est vraiment dans un endroit médian dans lequel on est capable de tout accueillir et de coudre ensemble, justement. C'est pour ça que cette métaphore de la couture, je la trouve très belle. C'est coudre le ciel à la terre, c'est coudre la mort avec la vie, c'est coudre la nuit avec le jour, c'est que des choses comme ça. Et moi, finalement, très rapidement, je me suis dit, ce soulagement-là, j'ai besoin de le transmettre maintenant. Quelque chose m'a été transmis par un auteur, à mon tour de transmettre quelque chose. Et de là, finalement, c'est monté très, très rapidement un montage de texte. C'est là où, moi, j'ai retrouvé aussi une place, on va dire, d'auteur invisible. C'est-à-dire que j'ai choisi certains passages pour proposer une traversée un peu panoramique de l'écriture de Bobin, c'est-à-dire dans des choses très courtes ou des choses plus dépliées. Et ensuite, à l'intérieur de ça, de mettre du jeu, évidemment, là-dedans.
Oui, ce qui veut dire que ce n'est pas un texte
non.
linéaire de Christian Bobin.
Du tout,
c'est
du
un
tout.
Montage.
C'est un texte qui n'existe pas.
Oui. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ce montage. Vous
oui.
l'avez soumis à Christian Bobin.
Oui, tout à fait. Et j'ai son feu vert.
Mais au-delà de son feu vert, qu'est-ce qu'il a pensé, justement, de cette logique qui vient de vous? Puisqu'elle tient oui. à la juxtaposition d'un certain nombre de textes d'origines différentes.
Ce qui a été très simple en fait avec Bobin, c'est que je suis auteur, donc la meilleure manière de converser avec lui, ça a été déjà de lui envoyer mes textes. Une fois qu'il a lu mes textes, on a commencé à parler, sérieusement.
Ça vous légitimait?
C'est-à-dire qu'il a vu où je voulais aller, quoi.
Oui.
Il a vu où je voulais aller, et surtout, moi ça fait 20 ans que j'écris, ça fait 20 ans que je monte mes textes, que mes textes. Et là, pour la première fois de ma vie, c'est une évidence que je dépose le stylo et j'ai autre chose à faire entendre.
Donc, eh bien, on va en entendre tout de suite un extrait pour se rendre compte de façon plus concrète.
Avec l'enfant,
commence la solitude des jeunes femmes. Elles seules connaissent ses besoins. Elles seules savent le prendre au secret de leur bras. Elles veillent aux soins du corps et à ceux de la parole. Il y a la nourriture, il y a l'école, il y a les squares, les courses à faire et les légumes à cuire. Et que de tout cela, personne ne vous sache gré, jamais. Les jeunes mères ont affaire avec l'invisible. C'est parce qu'elles ont affaire avec l'invisible que les jeunes mères deviennent invisibles. Bonnes à tout, bonnes à rien. L'homme ignore ce qui se passe. C'est même sa fonction à l'homme de ne rien voir de l'invisible. Ceux parmi les hommes qui voient quand même, ils en deviennent un peu étranges. Mystiques, poètes, ou bien... étranges, déchus de leurs conditions, ils deviennent comme des femmes, voués à l'amour infini. Ce qui, pour un homme, est un ratage merveilleux, pour une femme, est l'ordinaire des jours très ordinaires. Elle s'offre en pâture à l'enfant, à ses blanches dentelées, coupantes, brillantes, et quand l'enfant part, il ne laisse rien d'elle. Les animaux se laissent manger par leurs petits, les mères se laissent quitter par leurs enfants et l'absence vient, qui les dévore.
Yann Allégret, c'est presque le début du spectacle qu'on oui. entend, avec ce texte que vous dites, et vraiment la question se pose de savoir comment on dit un texte. L'impression très subjective que j'ai eue, c'est qu'il est dit de façon extrêmement juste. Mais quand on a dit que c'était juste, on n'a oui. pas dit grand-chose. Mais il y a quand même une adéquation de l'allure, de la façon dont vous vous arrêtez ou pas, avec ce texte incroyablement épuré.
Oui, oui. Ben, en fait, il faut tout miser sur le présent. C'est tout. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire parce qu'on a une écriture en face de soi qui est d'une puissance totalement redoutable. On n'a pas à faire l'acteur, il n'y a pas besoin de faire des trucs, il n'y a pas besoin de... Même pas d'intention, en fait, même pas d'intention. Ça devient intéressant.
C'est intéressant que vous parliez de puissance, parce que l'impression que j'ai eue, c'est que c'est une puissance en creux. C'est
totalement.
Pas une puissance qui montre ses muscles.
Mais vous savez, on vit dans un monde qui est tellement spectaculaire, on absorbe tellement de spectaculaires, tellement de choses dans l'immédiateté, tellement... On se met à croire que c'est ça, la puissance. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est un travail d'enlever, c'est un travail par le moins, et ça je le revendique avec beaucoup de plaisir, c'est un travail par le moins, mais c'est toujours ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on creuse, plus l'eau qu'on trouve va être pure. Mmh. Mais pour ça, il faut accepter de creuser dans la même direction, et il faut creuser assez longtemps. Et finalement, la puissance qu'il y a dans l'écriture de Bobin, une fois qu'on l'a trouvé, finalement, en tant qu'acteur, c'est extrêmement intéressant, en tant qu'interprète, parce que on a juste à laisser passer quelque chose et tout miser, encore une fois, je le répète, parce que pour moi c'est essentiel, sur le présent. C'est-à-dire que ça va dépendre de comment ça se passe avec les gens, ça va dépendre de l'état intérieur, ça va même dépendre, je reprends des écrivains qui me sont chers, qui sont Zéami, le créateur du Théâtre No, qui dit on peut pas jouer de la même manière le matin et le soir, on peut même pas jouer de la même manière en automne et au printemps, c'est pas possible. Mais pour ça, il faut être lié au présent.
Il y a une question que je me pose qui est liée à la sexuation du texte. Il faut que je vous parle un tout petit peu de ma vie. J'ai vu ça il y a deux jours avec Lucie Bouteloup, qui est la réalisatrice de cette émission. On sort et elle me dit c'est incroyable de parler de façon aussi juste d'une femme. Comment un homme peut-il écrire ça ? Et je répondu, pour moi, justement, je trouve qu'il n'y a qu'un homme qui peut parler de façon aussi juste des femmes. Par rapport à ce texte qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que vous en pensez, Yann Allégret ?
Je pense que tout dépend de la capacité d'accueil en soi. Tout dépend de la capacité d'accueil en soi, de qu'est-ce qu'on est capable d'accueillir en soi, des parts de soi-même. Je pense qu'on est, on contient tout, absolument tout. Tout, le féminin, le masculin, la nuit, le jour, on contient tout. Après, c'est simplement quelle est la place qu'on arrive à faire. Ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail. Ça demande des années, ça demande des dizaines d'années même. On peut retrouver ça dans l'art, on peut retrouver ça... Moi, je connais assez bien les arts martiaux ou la tradition asiatique, des arts traditionnels. on retrouve ça partout, mais c'est une histoire de capacité d'accueil. Bobin, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, il est arrivé à un endroit, qui est assez rare, d'ailleurs, je trouve, dans lequel il est capable de tout accueillir. Donc, ça veut dire que un gars qui parle du féminin comme ça, ça ne me surprend pas du tout.
Ça ne m'a pas surpris non plus. Non. Je vous propose d'écouter un autre extrait, donc, de « On prend le ciel et on le coud à la terre ».
J'ai longtemps écrit sans prendre l'écriture au sérieux. De peur de me prendre moi-même au sérieux. J'avais compris assez vite comment, avec le succès de mes livres, je pouvais devenir riche et mort. J'ai voulu échapper en me rendant le plus léger possible. C'était une autre façon de tomber dans le piège. Mon écriture a d'abord eu la profondeur de l'inconscient, ensuite elle a glissé à la surface des choses et je suis entré dans la catégorie du lisse. Il y a une catégorie du lisse, et c'est bien plus grave que d'être bête. C'est bien plus désespérant que tout. Pendant quelques années, l'eau de mon écriture a été coupée par le mauvais vin du monde. À force d'être caressé, mes phrases ont perdu leur éclat, malgré la vigilance que je croyais avoir.
Écriture légère, écriture blanche, écriture lisse, c'est de cela qu'il est question, avec en même temps la tentation de quelque chose qui devient, à force, si on sait s'y prendre, une facilité. Vous êtes oui. conscient de ces enjeux, vous, en tant que comédien, et en même temps, en oui. tant qu'écrivain, quand vous dites un texte pareil?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bobin, il parle de choses que je connais, qui est de toute façon quelque chose qu'on traverse tous, hein, un risque ou un piège qu'on traverse tous à un moment, qui est le danger de l'habileté, qui est le danger de la facilité, finalement, qui est le danger d'arrêter de creuser, d'arrêter de marcher, d'arrêter de se mettre en danger, en curiosité, en ouverture. Oui, et c'est très beau, justement, que Bobin, qui est quand même pas le dernier écrivain venu, qui est quand même un des plus grands poètes français contemporains, parle de ça, parle d'un moment où il écrit, c'est juste totalement lisse ce qu'il écrit, et il s'en aperçoit.
Il arrive souvent quand même que les poèmes parlent justement des enjeux de l'écriture poétique.
Oui, totalement.
C'est un thème qui revient de façon assez récurrente.
Oui. Et je trouve ça très important. Je trouve ça très important parce que ça démystifie l'écriture, ça désacralise l'écriture, ça humanise l'écriture, et ou ça la réhumanise plutôt, je dirais. Et ça, oui, bien sûr, moi, dans mon trajet d'auteur, bien sûr, je vois très bien, c'est des pièges dans lesquels je suis tombé aussi, en tant que comédien, c'est pareil, en tant qu'artiste. Qui n'est pas tombé là-dedans? Enfin, que la première personne qui n'est pas tombée là-dedans, je veux bien la voir, quoi.
Alors, vous, Yann Allégret, justement, qui mettez beaucoup en avant le fait que vous êtes un comédien qui fait ce travail-là en tant qu'auteur, en tant qu'il est en même temps auteur.
Non.
Que...
Non. 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 Quand je suis comédien, je suis comédien. C'est tout. Je suis pas auteur.
Et non, si non. vous n'aviez pas été auteur, vous auriez joué le texte de la même façon, vous pensez?
Non.
Ah,
non plus.
Alors comment
non,
le fait
non,
que
non,
vous
non,
êtes
non,
auteur,
non, non, non.
même si vous le mettez de côté, joue dans votre façon de le rendre?
Mais parce que je sais de quoi il parle. Je sais de quoi il parle. Mon corps sait de quoi il parle.
Et quand comment parle on travaille? Comment on travaille,
ça se travaille
un texte
pas.
Pareil.
Il n'y a pas besoin de le travailler.
C'est
il y a pas
l'impression
de le travailler.
Que ça donne. Et je me suis dit, je pense que je me trompe. Ça donne l'impression que, en effet, vous essayez de le donner au plus près de quelque chose qui n'est pas travaillé, et je me suis dit, je pense que je me trompe. Il a dû travailler.
Mais vous vous trompez complètement parce que c'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien d'accueillir le présent. C'est un travail harassant. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. C'est un travail dans lequel les pièges, ils sont toujours là, même des fois 2 minutes avant que les gens rentrent, et on commence à projeter quelque chose. On se dit, ah, je vais faire comme... Et non, il faut casser ce truc-là. Il faut juste revenir dans un inconnu qui est total, avec une partition qui est parfaitement maîtrisée, on est d'accord, ça bouge pas, mais c'est le présent qui éclaire tout ça. Donc ça veut dire que il y a un travail à la fois de comédien, mais il y a un travail aussi d'artiste, je dirais. L'écriture, vous savez, moi j'ai créé un journal d'Avignon, là, il se trouve c'est comme ça.
Voilà, cette année, vous voulez dire ?
Oui, oui, sur Facebook et sur le site de ma compagnie, un journal tous les jours, tous les 2 jours. Et je vois que c'est la même chose qui travaille dans l'écriture. Comment on accueille le présent, comment on arrive à un endroit de transparence aussi. C'est de ça m'intéresse.
Est-ce que ça veut dire que dans votre journal, vous ne rectifiez rien après coup?
Quasiment, ouais, c'est ça. C'est ça.
C'est la donne, c'est ça qui fait qu'un journal est un journal?
Non, pas forcément, mais là, dans ce cas présent, oui. C'est-à-dire que c'est arriver à déposer ce qu'on traverse, juste consigner ce qui est traversé et ensuite faire confiance. Parce que il y a aussi ça beaucoup dans l'écriture de Bobin et dans ce spectacle. Il y a aussi une histoire de confiance. Il faut lâcher. Il faut lâcher. Et pour lâcher, pour de bonnes raisons, il faut avoir trouvé quelque part une confiance.
Voilà. Une dernière question très courte. Oui. Vous êtes presque seul sur ce plateau, tout petit, du Théâtre des Halles. Oui. Presque, mais pas complètement, puisqu'il y a aussi un musicien qui fait entendre son home, et ensuite, qui de façon relativement modeste, et là aussi sans jouer trop de notes, a une guitare électrique. Oui. Quelle est la part de la musique dans votre façon dont vous incarnez cet écrivain, ce locuteur?
Pour moi, c'est une part qui est totalement essentielle, en fait. C'est-à-dire que c'est mon double, c'est ma moitié, c'est... un compagnon de route avec lequel je suis depuis 12 ans déjà. Donc, si vous voulez, pour moi, je ne pouvais pas imaginer aller au plateau, aller au feu, aller en première ligne sans lui. Ça, c'était hors de question. Et puis après, au-delà de ça, la musique, Bobin parle beaucoup de choses où on s'approche quand même de l'innommable. On s'approche d'un endroit où même lui est en train de dire « mais ça, je ne pourrais même pas en parler. Parce que le simple fait d'en parler, je vais l'abîmer. » Et c'est là où la musique intervient. C'est là où elle intervient.
On prend le ciel et on le coud à la terre. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Yann Allégret. Merci pour ce texte de Christian Bobin, qu'on peut voir donc tous les jours à Avignon au Théâtre des Halles à 22h30.
واسمع للمرة دي أسلاك الشوق يحرك الحنين وين القلب الليل يطول والنهار يعطي بقلب الشوق يحرك الحنين وين القلب الليل يطول والنهار يعطي بقلب
Yasmine Hamdan, dont on vient d'entendre la voix dans la danse des mots, partons pour l'Égypte en restant à Avignon, puisque nous allons parler de Mama, un spectacle qui se donne au gymnase du lycée Aubanel ce soir et les 21, 22, 23 juillet. Merci beaucoup Ahmed El Attar de venir nous en parler. C'est donc un spectacle qu'on voit dans un très grand plateau, alors que le spectacle dont on vient de parler était sur un plateau minuscule, avec un décor qui n'est pas très encombrant, des meubles, mais dont on voit tout de suite que ce sont des meubles riches, dans un intérieur riche de la grande bourgeoisie du Caire, et le spectacle s'appelle Mama. Alors, Ahmed El Attar, est-ce que dès le départ, pour vous, il était évident que ce personnage de Mama serait le personnage central qui donnerait son titre à la pièce ?
Oui et non, parce que en fait moi je pars d'une idée quand je crée, je pars d'une idée et pendant des mois je travaille sans savoir où je vais. Le spectacle ne se fait qu'à la dernière semaine. Ça fait 8 mois que je travaille avec les acteurs. J'écris à fur et à mesure, scène par scène. C'est un travail d'artisanat. Et on a vu le spectacle le 1er juillet. Alors on est parti de, moi je suis parti de l'idée de Mama, qui est la figure centrale, mais je pense que le résultat final, il englobe beaucoup plus que juste le personnage central de la mère. C'est le spectacle, il trace il parle de beaucoup plus de choses, les rapports de classe, le rapport homme-femme, jeunesse, et ainsi de suite. Et voilà, alors c'était parti de l'idée que la mère sera ou mama sera le personnage central, je pense que la fin est un peu différente.
C'était une idée de départ et ça a un peu changé, ça a un peu dérivé d'une certaine façon.
Oui. Oui.
Alors, le spectacle se donne en arabe, il est surtitré, je vous propose d'en écouter un très court extrait que vous allez ensuite, sinon nous traduire, en tout cas nous résumer. On écoute ça.
وانا مش قلت لك ما تتكلميش مع جدتك كده
يا بابي ما هي المصيره تقول لي يا زيزي وانا ما بحبش الاسم ده
وايه يعني لما تقول لك يا زيزي هي الدنيا اتهدت خلاص اتفضلي خشي على اوضتك جوه ما فيش خروج
لا انا هخرج
ادخلي اوضتك احسن لك
تعالي يا زيزي
تاني زيزي انا هخرج يعني هخرج
طب خديها جوه خديها
يا بنت
تعالي يا زينب بقى كده ما فيش خروج الاسبوع كله
عشان خاطر يا كيمو يا حبيبي معلش عشان خاطر هي ما تقصدش اصلا
كان لازمتها ايه زيزي زيزي البنت كبرت عايزاكي تقولي لها يا زينب قولي لها يا زينب
كده برضو يا كيمو يعني الحق عليا
خلاص يا مامي خلاص معلش حصل خير انا اسف
اي حاجه تحصل في البيت ده يبقى انا السبب
يا مامي خلاص خلاص كفايه اللي حصل
حسبي الله ونعم الوكيل عليكم كله
في ايه يا مامي وقلنا خلاص
كده برضو يا كريم مش هتتغدى
لا دي بره عني مشاوير
طيب
Des hommes, des femmes, des vieux, des moins vieux, des jeunes, on a un bel éventail de toutes les voix qu'on entend dans ce Mama, y compris ce piano oriental d'ailleurs pour ponctuer le dialogue. En gros, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Ahmed El Attar ?
En fait, moi j'essaye de décrire des choses banales qui n'ont aucun sens. Ce qu'on entend, les conversations de mes spectacles n'ont aucune valeur en soi-même. C'est le reflet du vide que je vois dans la société égyptienne et arabe, parce que les sociétés arabes, même si différentes, on partage quand même les, à mon avis, une grande partie des problématiques de contemporaines du monde arabe. Et alors ces conversations, c'est simplement la jeune fille qui s'appelle Zainab et qu'on l'appelle Zizi parce que de toute façon, il y a toujours un prénom autre pour
oui,
tout le monde.
Des surnoms.
Voilà des surnoms et du coup,
les surnoms peuvent évoluer. Selon l'âge de ceux ou de celles qui les portent.
Exactement. Et elle veut plus être appelée par son surnom de petite fille. Et ça crée toute une polémique. Encore une fois, c'est le vide parce que c'est une société qui se chamaille pour rien. Voilà. Et le spectacle parle un peu de ça. J'avais déjà travaillé sur ça en Last Supper il y a quelques années. Et c'est une continuation sans lettres, vraiment.
Alors, je ne parle pas l'arabe, j'ai lu les sous-titres, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une pièce sur le langage. Avec une langue extrêmement particulière, une langue qui donne l'impression, au premier abord, d'être un peu une langue loukoum, une langue très sucrée, une langue avec des appellations suraffectueuses, d'une certaine façon. Vous avez travaillé là-dessus ?
Oui, c'est en fait à travers la langue j'essaye de montrer ou de moi mon rôle en tant qu'auteur et metteur en scène c'est vraiment de mettre un miroir à la société. Je ne fais pas de préjugés, j'essaye pas de donner de leçons, ça m'intéresse pas du tout de dire aux gens comment il faut penser ou qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, ça c'est pas mon truc. Mais j'essaie de vraiment être au plus proche de la réalité tout en montrant toutes les différents niveaux de discours, c'est-à-dire quand on dit quelque chose, il y a toujours plusieurs sens, il y a toujours un rapport de force qui se forme entre les personnages, et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est montrer ça, et puis laisser les spectateurs, à travers la langue, mais aussi à travers le travail des acteurs.
Comme si on pouvait voir des différences de classe dans les différences de niveau de langue ?
Oui, c'est dans les mots qui s'utilisent, dans la façon dont on est trop gentil ou
oui, ça
très
ressort
agressif.
De façon tout à fait évidente, oui.
Voilà.
Oui.
Et aussi, c'est le rapport de classe, mais c'est le rapport de génération aussi. C'est les conflits entre les femmes de la famille pour le pouvoir, mais aussi entre les femmes et les hommes. C'est un peu la société en miniature, en fait.
Avec très souvent, non pas très souvent, mais avec de temps en temps et toujours chez les mêmes personnages, des phrases anglaises qui viennent interférer avec l'arabe et qui font incroyablement penser, dans cette aisance à passer d'une langue à l'autre au sein d'une même phrase, à ce qui se passe par exemple dans ce qu'on appelle le frambanais, c'est-à-dire la façon de parler au Liban, où le français et l'arabe sont incroyablement intriqués. C'est la même chose en Égypte ?
Oui, d'une certaine façon, chez les classes aisées, aujourd'hui, la langue, la deuxième langue, c'est l'anglais, c'est plus le français. Et du coup, c'est aussi ce rapport avec l'Occident qui, pour moi, est très important parce que c'est un rapport problématique et réel. Et c'est pour ça qu'on a un personnage, par exemple, qui vient tout au à la fin du spectacle, qui est le cousin qui vit en Belgique, qui parle pas l'arabe,
le jeune homme
qui est accueilli comme un membre de la famille. Et c'est une scène très drôle, mais en même temps, elle reflète pour moi ce rapport avec l'Occident. Il y a toujours, il y a toujours un refus, mais en même temps,
il y a une fascination,
et un refus. En même temps, ce qui est le paradoxe.
Et on voit bien que la vieille mama, elle est d'autant plus contente que le jeune homme, il fait allégeance à une culture arabe. Il dit qu'il a mangé telle chose et pas un sandwich. Il dit qu'il apprend à parler l'arabe, etc. Et chaque fois, elle lui dit, oh, mais mon chéri, viens m'embrasser.
Oui, elle est heureuse que ce cousin qui vit en Belgique et qui est, d'une certaine façon, qui a une statue plus importante de fait qu'il vit en Belgique, il s'intéresse aussi et à la culture du pays, et ça lui fait plaisir parce que c'est un genre de fierté. Voilà, même l'étranger s'intéresse à nous, et ça, c'est aussi une des rapports que j'aime montrer sans vraiment le dire, parce que tout ça, ça se dit pas. C'est simplement ça se comprend à travers ces petites scènes, ces conversations.
Donc il y a des langues différentes selon les générations, on vient de le voir, selon la géographie, on le voit aussi avec le cousin qui vient de Bruxelles. Est-ce que vous diriez qu'il y a une langue différente pour les hommes et pour les femmes ? Est-ce que c'est trop simpliste de dire une chose comme ça ? Est-ce qu'on le comprend quand on croise cette différence avec justement une différence de classe, de géographie et de génération ?
Je pense que c'est la façon dont on assume son rôle c'est-à-dire que pour les hommes dans le spectacle, ils parlent avec une assurance et tout de suite surtout le père qui est la figure principale mais qui représente le sauveur et quand il parle on se tait et quand quelqu'un essaye de contredire ou même de proposer autre chose lui il est quand même beaucoup plus tranchant que les autres et je pense que c'est ici où ça se trouve la différence.
Oui. Alors on le voit parfois de même qu'on voit son fils, on voit quand même les personnages masculins beaucoup moins que les personnages féminins, comme si l'homme il était à l'extérieur pour gagner de l'argent, faire de la politique, ça correspond vraiment à un cliché un peu souligné par votre travail, et comme si les femmes, elles étaient dans l'intime de la maison. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez voulu pointer ?
Bien sûr, dans ces sociétés, dans cette partie de la société, qui est la classe très aisée du monde de égyptienne et aussi du monde arabe, les femmes en majorité ne travaillent pas, et quand elles travaillent c'est pour leur propre plaisir, c'est pas vraiment pour un besoin, et c'est les hommes qui sont jamais là, et le monde, la maison, c'est le monde de la femme d'une certaine façon, même s'ils ont la possibilité de sortir, d'aller au club, de sortir déjeuner, faire tout ce qu'on peut faire
chez elles, à l'intérieur. Eh bien, merci encore Ahmed Altar d'être venu nous parler de Mama. Merci aussi à Yann Allégret qui nous parlait de On prend le ciel, on le coud à la terre. Demain, de nouveau, nous serons à Avignon avec deux spectacles. C'était La Danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Philippe Nadel, Lucie Bouteloup, Véronique Durand,